La FERTES, l'association pour la formation, l'expérimentation et la recherche en travail éducatif et social, a organisé un colloque débat avec Carolina Kobelinski sur les mots MAUX de l'attente en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Carolina Kobelinski est anthropologue chargée de recherche au CNRS. Elle est également membre du laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative. Cette attente est à double tranchant puisque migrants et personnel professionnel encadrant sont tributaires des décisions de l'administration de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a pour mission d'accorder ou pas l'asile à un réfugié ou de reconnaître la qualité d'apatride. Lorsque l'OFPRA refuse la qualité de réfugié à un demandeur, il examine s'il peut bénéficier de la protection subsidiaire qui remplace l'asile territorial. Il peut alors se passer beaucoup de temps entre l'instruction du dossier et la décision finale, mais très peu de temps à un réfugié s'il est débouté pour qu'il quitte le territoire français. Entretien avec Carolina Kobelinski juste après son intervention. On évoque avec elle les différents points abordés lors de ce colloque.
Comment vous avez trouvé cette réaction avec le public ?
Très bien, moi j'aime beaucoup présenter mon travail auprès des publics non universitaires parce que c'est toujours plus intéressant comme débat et il s'agissait d'un public averti puisqu'ils savaient tous très bien de quoi on parlait lorsqu'on parlait des demandeurs d'asile en CADA, étant des professionnels en CADA, donc dans des centres d'accueil pour demandeurs d'asile.
Comment vous avez organisé cette enquête dans les CADA ? Et d'abord, est-ce que vous avez visité que les CADA français ou même à l'étranger, même si ce n'est pas les mêmes structures ? Comment ça se passe, les différences ?
J'ai seulement travaillé dans des institutions en France. J'ai par la suite, mais après avoir fini mon enquête, fait quelques visites, mais pas vraiment du travail, même du tout, dans d'autres centres d'accueil pour demandeurs d'asile, qui n'ont pas exactement les mêmes formes en Espagne et en Italie. Mais je me suis vraiment concentrée dans cette enquête sur les institutions en France et notamment sur des institutions très particulières qui sont une petite partie du dispositif national d'accueil de demandeurs d'asile et des réfugiés, qui sont ces CADA, ces centres pour demandeurs d'asile, c'est-à-dire pour des personnes en attente de résultats de leur procédure pour demander le statut de réfugié.
L'attente, hein, puisque c'est le thème central de cette conférence, comment on la gère déjà pour les demandeurs d'asile et aussi les professionnels qui les accueillent dans les CADA. Il y a plusieurs degrés dans cette attente. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ?
Oui, effectivement, l'attente est une expérience à la fois singulière et collective. Et on ne fait pas tous cette expérience de la même façon. Et cela dépend notamment des profils, des parcours, des milieux sociaux d'origine, des ressources dont on dispose pour faire avec cette temporalité où on est suspendu à une décision de l'administration et qui va ouvrir éventuellement droit à des droits et à la possibilité de rester en France de façon légale, donc avec des papiers notamment. Et les façons de vivre cette attente, de ce que j'ai pu observer, divergent. Et j'ai, à la suite de mon enquête, que j'ai conduite entre 2003 et 2007, notamment dans deux grands CADA en région parisienne de type collectif, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y avait une sorte de séquentialité de l'attente, qui bien sûr n'est pas une temporalité linéaire, mais globalement de façon assez schématique pour essayer de comprendre l'expérience des demandeurs et des demandeuses d'asile. On pouvait penser l'attente comme une première étape de halte dans un parcours d'errance parce que les gens qui arrivent dans les CADA, en général, c'est des gens qui viennent d'arriver en France et qui ont voyagé pendant longtemps et dans des conditions pas toujours très sympathiques pour le moins. Et donc cette première étape, donc cette arrivée au foyer, c'était la possibilité d'avoir un toit, d'avoir un peu d'argent, d'avoir la possibilité d'aller chez le médecin, d'envoyer les enfants à l'école, d'apprendre grâce au travail quotidien des professionnels du social ce que c'est que la bureaucratie de l'asile, ce que c'est que l'administration en France. Donc cette première étape était vécue comme un moment de grand soulagement dans ce parcours qui était rempli d'errance et de différentes étapes de circulation plus ou moins contraintes. Ensuite, on peut voir une autre séquence qui est celle du temps qui s'étale dans le temps. C'est-à-dire la nuit qui s'installe, le temps qui commence à être perçu comme un temps vide, où il ne se passe rien, ce sont des termes que j'ai beaucoup entendus, du temps qui est en trop et qu'il faut meubler parce qu'on ne fait rien. C'est notamment une temporalité qui est vécue dans le foyer, dans la chambre, où l'on se retrouve à ne rien faire entre quatre murs et à ne faire que d'attendre la réponse liée à la demande d'asile. Une troisième étape est celle du contournement ou des tactiques de dissimulation de l'attente sous d'autres cadres temporels, c'est-à-dire une étape où beaucoup de demandeurs d'asile décident de sortir de l'enceinte du foyer, pour ainsi dire, et mener à bien d'autres activités, que ce soit le travail, que ce soit l'engagement dans une association, que ce soit l'activité militante, plein d'activités diverses qui permettent d'imprimer au quotidien marqué par l'attente, d'autres contraintes temporelles, avec des horaires précis, avec des contraintes qui sont particulières et qui viennent s'imposer, disons, et qui dissimulent, qui estampent les effets lourds de cette attente perçue comme un temps qui s'étale dans le temps, comme je le disais. Ces activités qui permettent de contourner l'attente permettent également de rencontrer d'autres personnes en dehors de l'espace du foyer, de personnes qui ne sont pas des demandeurs d'asile et qui peuvent penser ces demandeurs d'asile comme autre chose que des demandeurs d'asile. Ça a l'air complexe dit comme ça, mais l'idée c'est qu'on peut se penser autrement que par la demande d'asile. Voilà en gros les séquences de l'attente. Bien entendu, je le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas d'une chronologie linéaire ou uniforme. Il peut y avoir des va-et-vient dans les étapes de l'attente. Il peut y avoir d'autres attentes qui viennent s'imposer, des attentes des nouvelles de la famille, des attentes très ponctuelles liées à la temporalité particulière de la procédure d'asile, que ce soit la réception d'un courrier de l'OFPRA, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui évalue les demandes en première instance, ou que ce soit une convocation à la Cour nationale du droit d'asile en recours. Tout cela implique des nouvelles contraintes temporelles, l'urgence pour préparer un recours dans les délais ou l'attente liée au résultat final qui va être connu 21 jours après une audience à la CNDA.
Voilà. Justement, j'allais vous demander aussi, est-ce que vous avez côtoyé ou rencontré des gens extérieurs au CADA, des habitants, et comment eux gèrent cette proximité avec les demandeurs d'asile ?
De ce que j'ai pu observer, dans l'un des CADA où j'ai travaillé, le centre organisait des fêtes ou des soirées, des activités pour inclure les voisins tous les 6 mois, je crois. L'idée était d'ouvrir les portes du foyer et de faire en sorte que les voisins côtoient les demandeurs d'asile, qu'ils n'aient pas peur de l'autre qui était juste à côté. Et ça marchait plutôt bien. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui venaient et qui avaient envie de se rapprocher, de connaître ces personnes qui étaient là en attente, qui étaient là de passage et qui ne parlaient pas leur langue ou qui n'avaient pas les mêmes façons de faire. Dans l'autre CADA où j'ai travaillé, je crois que la situation était un petit peu plus tendue. C'était pas très, très facile. Il y avait eu des plaintes des voisins par rapport à la propreté ou enfin c'était juste de façon de signifier la dimension d'étrangers et des personnes et des foyers dans l'espace du voisinage. Et donc les professionnels justement essayaient de se demander à l'époque où j'ai fait mon enquête comment faire pour révertir la situation et donner à voir que ces demandeurs d'asile étaient des personnes comme les voisins, comme n'importe qui, comme tout un chacun.
Là, l'instruction du dossier pour faire la demande d'asile, comment ça se passe ?
Eh ben, quand on sollicite l'asile depuis la France, il faut d'abord demander un formulaire et puis déposer sa demande auprès de la préfecture de police qui va, elle, délivrer un titre provisoire de séjour d'un mois et envoyer la demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui va évaluer la requête en première instance. La personne aura un titre séjour renouvelable tous les 3 mois pendant la durée de cette procédure administrative. L'OFPRA, donc l'Office, va étudier la demande et là maintenant on est à des taux très très élevés, presque tout le monde est invité, convoqué plus exactement, à un entretien avec un officier de protection avec le concours d'un interprète dans la langue du choix du candidat au statut de réfugié. La personne doit s'y rendre et à la suite de cet entretien, au bout d'un temps difficile à maîtriser encore une fois, la personne va recevoir la réponse à cette demande. La plupart du temps, je n'ai pas les chiffres en tête malheureusement, mais la plupart du temps, l'OFPRA rejette les demandes d'asile et quand la personne a reçu la notification du rejet, elle a 30 jours pour monter son recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile, qui est donc l'instance qui va évaluer en deuxième instance. Là, il s'agit d'un autre type d'évaluation puisque il s'agit d'une formation collégiale, donc de 3 juges qui vont évaluer la demande. Ce recours part à la cour où un rapporteur va instruire la demande, c'est-à-dire va évaluer toutes les pièces du dossier, le récit, le recours, toutes les pièces complémentaires, tout ce qu'on peut apporter comme preuve, puisque l'enjeu c'est la preuve, alors qu'il est très difficile de faire des preuves. Mais toujours est-il que les rapporteurs vont essayer de donner un avis sur la requête et ensuite le demandeur d'asile est convié à la cour pour une audience devant ces 3 juges. Lors de l'audience, le demandeur d'asile peut être assisté de son avocat. Encore une fois, il y a une interprète ou un interprète. Et lors de l'audience, le rapporteur va résumer son point de vue. Et ensuite, il y aura un échange de questions-réponses entre les juges et le candidat. Il y a aussi le plaidoyer de l'avocat. À la suite de cette audience, 21 jours après, il y aura devant l'entrée de la cour, plus exactement, la réponse donnée par les juges. Si le recours est accepté, la personne bénéficiera de l'asile ou de la protection subsidiaire, qui est une protection d'un an renouvelable. Si le recours n'est pas accepté, le rejet est confirmé. Et la personne va être invitée à quitter le territoire. Il existe une possibilité de faire un réexamen de la demande auprès de la préfecture. S'il existe, si l'on peut prouver qu'il y a des éléments nouveaux qui montrent bien à quel point on est des réfugiés. Et donc, si cela est fait, si c'est possible de réouvrir le dossier, on recommence toute la chaîne administrative. Il existe par ailleurs une autre possibilité, mais qui elle est plus compliquée, plus technique, qui est celle de faire un pourvoi en cassation s'il y a eu un vice de procédure au moment du recours. Et dans ce cas-là, c'est avec un avocat qu'on peut faire cette démarche. Et si cassation pense que le demandeur a raison, la demande est réévaluée encore une fois. Bon, on ne sait pas. Toujours est-il que la plupart du temps, c'est après le recours que les personnes sont rejetées et que ce rejet est plus ou moins définitif et que de fait, les personnes deviennent déboutées du droit d'asile et encore une fois, de fait, des personnes en situation irrégulière sur le territoire français.
Là, du coup, elles ont combien de temps pour quitter le territoire ?
30 jours.
Alors, on parlait de l'attente. Du coup, il y a le temps aussi qui est hyper élastique de le genre de procédure. Et puis d'un seul coup, se casse pour juste laisser un mois. Psychologiquement, ça doit être hyper compliqué pour les professionnels qui s'occupent des demandeurs d'asile et eux-mêmes. Vous avez rencontré ce genre de cas et comment ça se gère ?
Pour revenir à ce qui se passe en CADA, le gros problème, c'est la sortie des CADA. C'est pas tant le fait de se dire qu'il va falloir quitter le territoire national, parce que de fait, ça se fait pas trop, mais c'est de se dire qu'il va falloir faire sortir les déboutés de l'institution où ils ont passé pas mal de temps à attendre le résultat de leur requête. Et là, les professionnels sont confrontés à un gros dilemme. Comment fait-on pour aider les personnes à aller vers d'autres structures ou aller vers d'autres institutions et plus simplement, plus platement, comment faire en sorte que les personnes ne quittent pas le CADA pour dormir dans la rue. Et là, ça dépend beaucoup des différents CADA, des différentes associations ou entreprises gestionnaires et de la marge de manœuvre des professionnels pour trouver d'autres options. Il y a aussi parfois la possibilité de bénéficier des ressources sociales des demandeurs d'asile, mais bon, il faut que les personnes puissent avoir ces ressources, des compères, des compatriotes, des cousins ou d'autres qui puissent les héberger, ce qui n'est pas toujours le cas.
Vous dites que le CADA aussi cristallise l'attente des demandeurs d'asile. Vous entendez quoi par là ?
Veux dire par là que on ne peut pas penser l'attente sans penser son lien avec la spatialité où elle se déploie. Les CADA, et notamment les CADA collectifs où j'ai fait mon enquête, sont des espaces d'attente dans la mesure où les besoins premiers vitaux sont garantis. Donc les personnes qui dorment dans la rue ont d'abord comme grosse problématique d'essayer de voir où ils peuvent dormir, où ils peuvent manger, comment ils peuvent faire pour se laver. Quand on est au CADA, tous ces besoins fondamentaux sont garantis. Et on se retrouve là à justement attendre. Et donc c'est dans cet espace-là qui est aussi un espace où cette forme d'assistance ne va pas dans une certaine dimension de confinement ou de mise à l'écart ou de contrôle d'activité ou de surveillance va se déployer. Cette attente va se faire quelque sorte palpable, pour ainsi dire. Et donc c'est pour ça que je disais que le CADA cristallise l'attente, une attente qui, dans d'autres cas, elle est moins visible, elle est moins présente, elle est toujours là, mais elle est moins présente parce qu'il y a d'autres attentes beaucoup plus fondamentale à gérer dans l'urgence.
Il y a aussi, c'est un mot qui est très à la mode en ce moment, moi ce que je considère la déchéance de classe sociale, notamment par rapport aux métiers qu'ils exerçaient dans leur pays. Et ici, évidemment, il n'y a plus rien. Est-ce que ça les frustre ? Vous avez constaté que ça les frustre ou à la rigueur, ils étaient prêts à faire ce qu'ils pouvaient pour rester en France sans faire leur métier d'origine ?
C'est vrai qu'il y a, pas toujours, mais beaucoup de personnes que j'ai connues avaient des emplois qui, de fait, renvoyaient un déclassement social par rapport à leur situation, à leur métier dans le pays d'origine. Mais à chaque fois, de ce que je pu voir, il s'agissait moins d'une source de souffrance ou de frustration que d'une manière de commencer à prendre la main, à avoir la maîtrise du temps, cette volonté d'aller vers plus d'autonomie et éventuellement après pouvoir se trouver le moyen de revenir au métier qu'on voulait ou découvrir des nouveaux métiers. Effectivement, il y a un déclassement, pas toujours d'ailleurs, mais il y en a parfois. Mais cela, on est prêt à faire cela si il s'agit d'un pas vers une meilleure situation, vers la possibilité de vivre tranquillement comme on veut et éventuellement envoyer de l'argent au pays, par exemple.
Le public, surtout constitué de personnels professionnels encadrants de différentes structures d'accueil, était venu nombreux à ce rendez-vous. On écoute les réactions d'une éducatrice du point Écoute Jeune de la vie active d'Arras et une personne qui s'occupe d'un atelier chantier d'insertion.
Très intéressante et elle vient vérifier notre pratique. tout ce qu'elle a dit, on le vérifie au quotidien. Nous, on reçoit les jeunes de France Terre d'Asile, hein, tous les mineurs, qui ont justement cet objectif d'attente, mais en même temps d'être bousculés avec cette notion de temps pour travailler, se former, apprendre le français, trouver une formation, aller à l'école. Et du coup, cette notion de temps, elle est hyper compressée, hyper... frustrante à la fois, parce que bah, l'enjeu, c'est d'avoir les papiers pour eux. Mmh. Et on passe à côté de tout ce qui est leur mal-être. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait de leur mal-être ? Ils ont tout quitté, ils sont dans des deuils successifs. Et la difficulté, c'est ça. Aujourd'hui, l'impératif, c'est les papiers, c'est de s'en sortir, c'est de se réinsérer. Mais qu'est-ce qu'on fait de leur bobo ? Qu'est-ce qu'on fait de leur mal-être ? Et toute cette souffrance qu'ils gardent en eux et qu'ils ne montrent pas. Donc notre boulot à nous, c'est justement d'essayer de travailler ça.
Et vous, madame ?
Moi, je travaille dans un atelier chantier d'insertion. Donc on a eu l'occasion aussi d'accueillir des personnes en demande d'asile ou des personnes qui avaient bénéficié à un certain moment de papier, d'un papier et puis qui, en cours de parcours, ont perdu ces papiers. Lors du renouvellement de carte de séjour qui était refusé. Donc automatiquement, le contrat a dû se terminer alors qu'il y avait une démarche d'insertion où ils avaient créé des liens avec des autres salariés. Ils avaient une utilité, ils étaient insérés, pour moi insérés, ils étaient en parcours de formation. Enfin bref, tout ce qu'il fallait, et ben, ça s'arrête comme ça du jour au lendemain pour un papier, pour une demande d'asile qui tarde. Avec une interpellation de la directe en nous demandant de cesser les contrats. Cesser les contrats en urgence sous peine d'être employeur illégitime. Et donc là, ça fait mal aussi, parce qu'on se dit... Voilà.
Alors, du coup, on se rend bien compte que c'est dur pour eux, mais c'est dur aussi pour vous, qui s'occupez de ces réfugiés ou ces demandeurs d'asile. Est-ce qu'il y a une méthode particulière ou c'est juste l'humain qui prime à ce moment-là pour justement soit les rassurer, mais aussi vous rassurer dans votre travail ?
Là, c'est l'humain. Pour moi, c'est l'humain, c'est être authentique, c'est d'être au maximum en empathie avec ces gens-là. Enfin, c'est, en effet, c'est beaucoup de souffrance pour eux, parce qu'ils se sont quand même battus et ils ont tenu le coup jusqu'à maintenant, quoi. Mais je pense que l'écoute, mon boulot à moi, c'est de travailler sur l'écoute. Donc, en effet, c'est la présence, c'est l'écoute, c'est les accepter tels qu'ils sont en tant qu'humains et non pas en tant que réfugiés ou en attente de leurs papiers. C'est de leur donner un peu de réalité dans un contexte qui est hyper violent, du coup. Et quelque part, on est mal à l'aise. C'est ce qu'on disait, on est mal à l'aise, nous, par rapport au système, où on a l'impression de cautionner voilà, ce délai d'attente, même de 4 ans par moment. Mais on se dit, mais à un moment donné, ils les ont pas, leurs papiers. Et c'est retour à la case départ. Et là, c'est très violent, quand même. On est quand même dans un système où on donne l'illusion que ça va fonctionner. Ils ont tout fait, ils ont remonté leurs manches pour y arriver. Et arriver là, ça marche toujours pas. C'est là où on se dit, mince, le système, là, il est pas bon, quoi.
Vous avez quand même un droit de regard sur ce système. Vous intervenez aussi pour qu'il s'améliore.
On essaye à notre petite échelle, nous, de salariés, de faire remonter ça au niveau des partenaires, enfin des structures qui sont habilitées à œuvrer hein, par rapport à tout ça. On monte au créneau pour défendre certaines familles qui sont... moi, j'ai vécu avec la maison aussi des parents qui sont repartis sur Paris alors qu'ils étaient bien ancrés là aussi. Mais non, pas de renouvellement de papier et rebelote. On ne leur laisse pas poser leurs valises. C'est ça qui est quand même très, très, très fort dans notre système. On leur laisse croire. Arrivé là, on leur donne des maisons, ils refont tout, et puis, ah ben non, bah vous repartez, et on repart. Donc on leur laisse pas le temps de se poser, c'est très très violent. Moi je trouve qu'on est dans un système quand même qui est particulier.
Je pense que les professionnels ne sont pas entendus non plus.
Non plus.
Parce qu'on a beau alerter, on peut avoir des... Enfin, des fois il y a des contrats, on va militer pour une famille, ce qui fait qu'il y aura des solutions de trouver, des contrats, des choses effectives, et pour finir, bah, c'est pas pris en compte. Et là, c'est...
Donc, c'est archaïque aussi, donc on l'a d'autant plus avec ce genre de difficultés. Nos procédures, elles sont quand même très lourdes. Donc on est confronté aussi à ça.
C'était un sujet qui évoquait les maux de l'attente, maux MAUX, des demandeurs d'asile dans les CADA, au travers d'un colloque débat mené par Karolina Kobelinski, anthropologue chargée de recherche au CNRS, également membre du laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative. Ce colloque s'est déroulé la semaine dernière à La Fertès d'Arras.